Et l'invité du grand entretien ce matin est sociologue, directeur de recherche associé au CNRS Cevipof. Il publie aux éditions de l'Aube un nouvel âge jeune, point d'interrogation, sous-titre « Devenir adulte en société mobile ». C'est l'Aube, donc, édition de l'Aube, mais aussi la fondation Jean Jaurès. On va parler de la jeunesse, mais aussi de l'agriculture. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Jean Viard, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc ce petit livre, en réalité, on va dire un manifeste sur la jeunesse qui tombe dans un moment étrange du débat public entre la pression qu'exerce la jeunesse mondiale sur la question écologique et un débat en France sur la réforme des retraites. On va y venir. Dans ce livre, vous cherchez déjà à définir ce que ça veut dire d'être jeune aujourd'hui, à quel âge ça commence et à quel âge ça se termine par l'entrée dans l'âge adulte. Vous dites que la jeunesse dure plus longtemps, que les jeunes vieillissent en quelque sorte, puisqu'ils commencent à l'être à 16 ans et finissent à 26 ans minimum, parfois 27, 28, 29 ou 30. Qu'est-ce qui définit, disons, cette dizaine d'années qu'est-ce qui définit cette période où l'on peut se dire jeune, Jean Viard ?
Mais si vous voulez, quand j'étais un jeune apprenti sociologue, on me disait « qu'est-ce que c'est que l'âge adulte ?» Et au fond, on disait « il y a deux éléments de l'âge adulte, je me reproduis et je gagne ma vie ». Donc effectivement, du coup, c'est les deux éléments qui fait que je ne suis plus un enfant, je suis capable de faire moi-même un enfant, et je suis capable de vivre, de me faire un salaire, de manière stable et continue. C'était ça la définition de l'âge adulte.
Ça n'a pas substantiellement changé.
Ça n'a pas changé, sauf qu'aujourd'hui, le premier bébé, c'est 30 ans et 2 mois, et en gros, la majorité des jeunes à 29 ans ont un emploi à peu près stable. Bon, on connaît tous le marché du travail, mais en gros, on peut le dire comme ça. Ça veut dire qu'en gros, on est dans une période, il faut 10 ans. Moi, je suis de la génération de 68, donc c'est là où la jeunesse a émergé comme force politique. La jeunesse est une idée de l'après-guerre. Avant, ça n'existait pas, au fond. Et ça a émergé comme force politique en 68, dans le monde entier, y compris parce que c'était les jeunes qui allaient au combat. Faut toujours se rappeler qu'il y avait le Vietnam derrière. Donc, c'est l'âge où on pouvait, on aurait pu aller en Algérie. C'était assez court de pas être allé en Algérie. Donc, être jeune, c'était être soldat aussi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Et je pense qu'il y a une longue période d'hésitation, d'aventure, de discontinuité, et qu'il faut la penser comme telle. Vous voyez, c'est-à-dire, moi je dis, quand il y a 100 000 jeunes qui quittent l'école à peu près vers 14-15 ans, ne les remettons pas à l'école. Faisons-les voyager, trouvons-leur d'autres activités. En gros, il y a quatre choses qu'il faut apprendre. Il faut un niveau de compétence. Bon, il faut avoir appris à travailler. Il faut avoir appris l'amour. Et il faut avoir appris le voyage. Le monde moderne, c'est un monde qui a ses quatre fondamentaux. Voyage, amour, apprentissage. Mais il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que si un gamin a fait des études trop longues, d'une certaine façon, il ne sera pas non plus très employable parce qu'il n'aura pas appris le salariat, il n'aura pas eu le temps de voyager, etc. Donc, réfléchissons à former la jeunesse sur ces bases.
Parce qu'il n'y a pas de politique publique en tant que telle, taillée sur mesure pour la jeunesse d'aujourd'hui.
Mais non.
Les politiques publiques datent encore, on va dire, leur cadre intellectuel ont été façonnés pour la jeunesse d'hier.
Oui, on a tous le même modèle, tu fais des études longues, après effectivement, d'abord la jeunesse d'hier, elle était formée beaucoup pour les hommes par le service militaire. Donc ça aussi, c'est des initiations qu'on a supprimées. Mais si vous voulez, la question c'est de comprendre qu'il y a différents chemins. Et qu'à un moment, il faut les penser. Moi, ce qui m'énerve, vous voyez, quand on donne des statistiques, mettons sur la pauvreté. Est-ce qu'un jeune de 22 ans qui a 1000 euros par mois, il est pauvre ? Non. Est-ce qu'une dame de 40 ans qui a deux enfants qui a 1000 euros par mois, elle est pauvre ? Oui. Alors on vous donne une statistique, on dit 9% des Français sont pauvres. Non. Moi, quand j'étais étudiant, on avait en moyenne 40% du SMIC. C'était la bourse, c'était 400 euros, le SMIC était à 1000 euros. On se considérait pas comme pauvre. On n'avait pas beaucoup de sous. Donc faut faire attention. On publie des chiffres alors qu'il faut dire, jusqu'à 27-28 ans, on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes contraintes. Par contre, il faut garantir un logement à toute la jeunesse, parce que la question de base, c'est d'être logé pour toutes les populations.
Jean Viard, vous faites d'une certaine manière, bon, la description, ça c'est sûr, mais peut-être aussi l'éloge de la discontinuité, de l'intermittence qui caractérise cet âge de la vie aujourd'hui.
Vous savez,
mais juste... cette intermittence qui consiste par exemple à passer d'un job à l'autre, d'un petit job à l'autre pendant 10 ans avant de signer un CDI, êtes-vous certain qu'elle n'est pas subie et problématique ? Une chose est de vouloir la vie de bohème, comme on disait au 19e siècle, et de la vivre, une autre est de la subir parce qu'il n'y a pas d'alternative.
Non, mais il y a deux choses différentes. Le modèle culturel de nos parents, j'allais dire de l'après-guerre, c'était la stabilité. Donc le but, c'était d'avoir les trois stabilités. Il y avait le salariat stable, la propriété et le mariage. Et en gros, quand on avait ces trois éléments, on bricolait jusqu'à la fin. il y avait des tensions, on gardait le mariage, etc. Nous, on n'est plus du tout là-dedans. Pourquoi? Parce que la vie s'est extraordinairement allongée. Moi, je suis un spécialiste du temps long. C'est-à-dire, je me dis, comment on vit les 20 années que nous avons gagnées sur la génération d'avant? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui renvoie à la question de la campagne, on y viendra sans doute. On se déplace. Et effectivement, la génération de l'avant-guerre, elle a mis les années qu'elles avaient gagnées, les 10 ans, après à la fin. Parce que, il faut se rappeler que, en 1900, 94% des ouvriers étaient morts à 65 ans. C'est pour ça qu'on a fixé l'âge de la retraite à cet âge-là, mais la plupart des gens étaient déjà morts. Nous, on a une vie qui a gagné 20 ans. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toute la question. Or la question, c'est que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. C'est ça le paradoxe. À tout âge, on peut tout recommencer. Un Français sur deux vit pas dans le département où il est né. 10% des Français vont mourir dans la commune où ils sont nés. 10%. Je veux dire, et toute la discontinuité des couples est comme ça. 30% des enfants ne vivent pas avec leurs deux parents. C'est pas la faute de Macron ou du capitalisme. Si les familles se reconstituent, vivent, discutent. Et est-ce que les gens disent qu'ils sont heureux? Je suis désolé, 80% des Français vous disent tout le temps qu'ils sont heureux dans leur maison, dans leur quartier, dans leur travail. Ils sont malheureux dans l'espace public. C'est ma vieille formule additionnelle, bonheur privé, malheur public. On ne sait pas où va le monde, on a peur du changement climatique, etc. C'est la sphère publique qui est en crise.
Mais sur la jeunesse, sur l'intermittence, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle peut être une modalité heureuse de la vie pendant 10 ans et non pas une intermittence subie et payée au prix de la précarité?
Mais il y a des gens pour qui c'est subi. Comme toujours, mais c'est comme n'importe quelle séparation, c'est pas toujours fait avec des fleurs. Donc je veux dire, bien sûr que les discontinuités sont toujours des passages. La question, vous voyez, j'aime bien la formule de la CFDT, du sac à dos social. Avant, le but c'était de protéger les gens pour les stabiliser. Aujourd'hui, c'est d'accompagner leur discontinuité. Par exemple, ce qu'on fait mal, parce que regardez les mamans seules, 1,5 million de mamans seules, 3 millions d'enfants, c'est le cœur de la pauvreté en France. On n'a pas encore compris que toute cette discontinuité, par exemple, laisse sur le bord de la route des jeunes femmes, souvent peu diplômées, dans les quartiers populaires. Moi, j'ai été élu à Marseille, il y avait 30 à 40% des logements occupés par des mamans seules, non diplômées, souvent sans voiture. Elle est là, le cœur de la pauvreté. Donc la question, c'est comment on adapte, on arrête de dire que c'est subi ou pas, c'est pas notre problème, moi je suis sociologue, c'est de dire les gens sont discontinus dans nos modes de vie. Moi je pense que souvent c'est un phénomène de liberté. Comment on invente des droits sociaux, des protections pour ces discontinuités, et pas qu'on essaie de les stabiliser.
Encore un mot sur le sujet Jean Viard, et puis je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions d'auditeurs dans quelques instants au standard d'Inter. Est-ce qu'on peut dire que ce qui caractérise la jeunesse contemporaine, ça n'est plus l'insouciance, comme il y a une génération, peut-être la vôtre, mais l'inquiétude?
Vous savez, moi je suis d'une génération, on est allé s'installer à la campagne après 68, parce qu'on avait tellement l'impression que le modèle urbain, capitaliste et bourgeois était invivable. Donc il y en a d'autres qui sont allés en usine, donc si vous voulez, on n'était pas particulièrement insouciants. Je pense que chaque génération a un chemin à faire. Le problème, si vous voulez, c'est de penser la jeunesse. Moi je dis, il faut leur penser un statut. En plus, on voit bien qu'avec la crise écologique, les jeunes s'expriment de plus en plus tôt. Moi je dis oui, le droit de vote à 16 ans, mais pourquoi pas l'indépendance fiscale à 16 ans, le fait effectivement d'avoir des droits. Moi je suis très fort. Quand un jeune travaille deux jours par semaine, il y a des entreprises qui font des contrats de 5 ans pour accompagner les jeunes. C'est bien, mais il faudrait lui garantir une chambre en CTU, parce qu'avec deux jours par semaine, il ne peut pas se payer un loyer. Est-ce qu'on peut regarder la jeunesse comme elle vit et lui inventer les protections pour maximiser son choix à elle?
Jean Viard, nous recevions cette semaine au micro d'Inter François Ruffin, assis à votre place, c'était mercredi, dont le livre sur le combat écologique est un appel à la jeunesse. Il fait des jeunes les prophètes du monde à venir. Comment analysez-vous, on le voit dans les manifestations, comme dans la sociologie électorale, le vote pour les Verts aux élections européennes, analysez-vous le fait que le combat pour la planète, le climat, soit devenu le grand combat de cette génération-là?
Mais si vous voulez, on va dire les choses. Je suis pas d'accord beaucoup avec François Ruffin, sauf sur une chose essentielle. La Troisième Guerre mondiale est commencée. C'est une guerre qui sera écologique. Et il faut qu'on se mette dans une pensée de guerre pour essayer de résoudre cette question. Et donc, effectivement, ça veut dire se concentrer sur ce sujet et débattre sur les moyens d'y aller. C'est ça qui est en train de se passer. C'est une guerre. Il y aura des victimes par millions. Il y aura effectivement des catastrophes. Est-ce qu'on va trouver ou pas les solutions? Et est-ce qu'on va trouver des moyens de protéger les gens? Parce qu'on sait tous que le réchauffement climatique, disons 2 degrés, il est certain. Disons, on sait qu'à Lille, il y aura le climat de Marseille dans 50 ans. Est-ce qu'on est déjà en train de d'habituer les Lillois à vivre comme des Marseillais, avec de l'ombre, avec du blanc, avec des arbres, etc. Et ça, c'est certain. Et puis de l'autre côté, il y a comment on bloque les deux degrés. C'est deux sujets différents. Et là, ça va être une guerre gigantesque.
Une guerre.
Mais c'est une guerre. Il y aura des millions de victimes dans les deltas, dans les zones de catastrophe, dans les incendies. Je veux dire, on est face à un moment où, au fond, on va dire, les sciences sociales et les sciences naturelles se mélangent. Avant, il y avait deux sciences. Il y avait les sciences de la nature et les sciences de l'homme. Ben, aujourd'hui, l'homme a tellement bousculé la nature qu'il n'y a plus qu'une seule science. C'est effectivement la science naturelle et sociale. Et donc, c'est cette unité qu'il faut faire et sur laquelle il faut qu'on... Et c'est ce qui va nous rassembler. Parce qu'on a créé une société de l'individu heureux dans un monde malheureux, pour schématiser. On va se réunir par ce combat. On se réunit dans les guerres, paradoxalement. Malheureusement, je dirais, je ne fais pas l'éloge de la guerre. Mais il est clair que les sociétés sont beaucoup plus solidaires parce qu'elles ont un commun. C'est ce que pourrait dire Carl Schmitt par certains côtés. Donc, je pense qu'il faut dire, la guerre écologique ne sera gagnée que si on se mobilise tous, tous pour effectivement cette guerre.
Et donc, les jeunes sont les premiers, là, à monter au front.
Les jeunes, mais soyons pas insensibles au fait que les vieux sont aussi des grands-parents et des arrière-grands-parents. Vous savez, ce qui est nouveau dans notre monde, c'est qu'on est passé d'un monde 3 générations à un monde 4 générations. Ça, c'est la grande révolution notre époque, y compris en termes économiques, humains et culturels. C'est pour ça que les très vieux sont souvent très sensibles à l'écologie. Pas pour eux, leur espérance de vie fait que c'est pas un souci, mais pour leurs petits-enfants. Mais effectivement, les jeunes, ils sont en train, ça va être leur sujet. Nous, notre sujet, c'était l'émergence dans les années 60, ça a été effectivement la guerre du Vietnam, ça a été l'émergence de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la question de la jeunesse. Et la bataille, ça va être comment à la fois se restreindre et innover. Comment favoriser ITER et des voitures qui consomment moins. Comment on peut être sur ces paradoxes.
J'aimerais juste vous lire l'extrait un extrait du dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, qui décrit de la manière suivante le monde agricole. Ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle. Mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent, les agriculteurs, donc individuellement, dans leur coin, sans jamais donner matière à un sujet pour BFM. Vous préparez un livre sur l'agriculture et les agriculteurs. Vous intervenez longuement dans l'excellent hebdomadaire Le 1 sur le sujet. Que vous inspirent ces phrases de Michel Houellebecq ?
Il a pas tort, mais c'est pas nouveau. Il y avait 3 millions de fermes en 45. Il en reste 440 000. Donc on voit bien que c'est une destruction. En plus, c'est des destructions, j'allais dire, des familles. Parce que, bien souvent, celui qui reste, c'est qu'il a récupéré les terres de toute la fratrie, des cousins. Donc c'est pas fait qu'avec des bisous et de l'amour. D'ailleurs, le film Au nom de la terre, on voit bien l'épouvantable conflit entre les générations. Ne soyons pas des enfants de cœur. Mais effectivement, on a complètement transformé notre agriculture. Et du coup, on a eu deux éléments. Il y en a un que je dis toujours. Paris, vous mangez 1 200 000 œufs par jour. Donc, je suis pour l'agriculture urbaine, mais si vous voulez 2 millions de poules à Paris, dites-le tout de suite. Donc, faisons attention, on ne va pas vers l'autonomie de la ville. C'est pas possible, c'est absurde. Par contre, effectivement, la ville redécouvre la nature, le végétal, et c'est génial. Ne mélangeons pas les sujets. Donc, effectivement, il y a une transformation. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que l'agriculture, pour se concentrer, depuis 50 ans, a investi dans un modèle chimique et productif qui permet qu'on soit tous nourris. On n'a aucune angoisse de manquer. Il y a la vache folle, il y a à manger. Il y a le tremblant du mouton, on mange autre chose. C'était pas comme ça. Avant, quand il y avait la vache folle, on n'avait plus rien à manger. On a donc la garantie d'être nourri. Bon, c'est que la première fois dans l'histoire humaine, faut quand même le dire. Et avant la guerre, c'était pas ça. Donc, je veux dire, bon, alors après, donc on a détruit une partie du monde paysan. Mais on a réoccupé les campagnes. Je veux dire, il y a 16 millions de Français, 16 millions de maisons en France qui ont un jardin. Il y a 13 millions de maisons qui ont un appartement. Et dans les 13 millions qui ont un appartement, il y en a 3 millions qui ont une résidence secondaire. Donc, faisons attention. La ville s'est étalée. Et les paysans ont été diminués en quantité.
Mais pourquoi, pour reprendre votre métaphore, donnent-ils l'impression d'être les premières victimes de la guerre écologique, paysans ?
Parce que, si vous voulez, moi, vous voyez, j'ai eu un grand dîner la semaine dernière, cette semaine d'ailleurs, avec les grands producteurs. Je les connais bien, c'est un monde que j'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est un monde profondément conservateur. C'est un monde de gens qui vous disent « ça fait 6 générations que j'ai la même ferme ». C'est des gens qui ont une culture très catholique, mais très traditionnelle. J'ai rien contre le catholicisme. C'est des gens qui vous disent « ah, moi, dans mon couple, on n'a jamais pris de pilule, ma femme, nous vivons la nature ». C'est-à-dire qu'ils sont dans des valeurs, qui sont des valeurs loin du monde écologique. Et le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de changer leur technique de production. Regardez simplement dans le vignoble. Moi, quand j'étais enfant, on ouvrait la cave coopérative de mon village le 4 octobre. Maintenant, on l'ouvre le 28 août. Tellement le réchauffement climatique a déplacé. Maintenant, on vendange la nuit. on vendange entre minuit et 6 heures du matin. Alors qu'avant, on a... Enfin, vous voyez tous ces bouleversements. Donc eux, ils adaptent à ces bouleversements. Mais effectivement, la question de la pensée écologique, ils le vivent comme une contrainte extérieure. Il y a le marché, il y a les supermarchés, il y a effectivement la contrainte écologique. Ça arrive de l'extérieur. Pourquoi ? Ben parce que, un, c'est leur culture, profondément. Et deux aussi, parce qu'ils ont fait des investissements lourds. Ils se sont achetés 500 hectares. Ça prend deux générations à rembourser. Ils ont construit des hangars. Ils ont fait des poulaillers, 20 000 poules. Tout ça, ça se rembourse sur 30 ans. Et d'un coup, on leur dit, mais le modèle, il va plus. Et vous savez ce qui est ? L'autre jour, il y avait un grand producteur de maïs. Il s'est mis à pleurer parce qu'il me dit, tu sais, ma fille, elle me parle plus. Parce que ma fille, elle est en ville. Et donc, ma fille, elle est écolo. Et elle dit, mais papa, en fait, ton maïs irrigué, tout ça, mais c'est quoi ton modèle absurde ? Donc, alors, le problème, c'est comment on va accompagner cette paysannerie pour qu'effectivement, elle continue à nous nourrir. Vous savez, la paysannerie, moi je dis toujours, la paysannerie, la science et l'art, c'est l'avenir du monde. Parce que dans un monde, la révolution industrielle a cru que tout pouvait se retrouver, on creusait partout, etc. C'est fini. Donc on est dans un monde du renouvelable. Mais le renouvelable, il y a des gens qui savent le faire, ce sont les paysans. Travailler avec le soleil, travailler avec le vent, travailler avec l'eau, travailler avec les cultures locales, parce que les cultures locales aussi, c'est important. Et travailler avec la terre. Et si vous voulez, c'est pour ça que plus important que de protéger les paysans, il faut d'abord protéger la terre arable et la forêt. Ça, c'est fondamental. Il faut arrêter d'étendre les villes. On prend 1100 hectares par semaine, alors que les Chinois achètent des terres dans toute la planète. Passe protégeant les terres de France, sanctuarisons-les. Et ensuite, on verra, est-ce que les paysans, il y en a un tiers qui vont arrêter la paysannerie ? On mettra d'autres personnes à l'agriculture, si cela ne s'adapte pas. Mais si on... Et formons-les. Faisons une énorme politique de formation.
Bon, j'ai encore mille questions à vous poser, Jean Viard, mais je préfère donner la parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour. Moi, je reviens sur ce que M. Viard a dit au départ par rapport à la jeunesse qui ne veut pas un CDI tout de suite. Moi, j'ai arrêté au bac à 19 ans. Je suis partie à Paris où j'ai bossé 3 ou 4 ans. Après, j'ai fait 5 ans à New York en travaillant dans le design, dans la restauration, dans différents métiers. Et après, je suis revenue en France et j'ai pris des études à 35 et à 40 ans. Et actuellement, je suis gestionnaire technique dans l'immobilier, donc j'ai changé de branche complètement. Mais je trouve que le fait de s'ouvrir, d'aller voir différents métiers, différentes cultures et différents pays, ça permet de relativiser un petit peu, d'arrêter de se plaindre comme pas mal de Français le font d'ailleurs. Et je trouve que c'est une ouverture d'esprit qui est assez agréable.
En donc fait. Vous vous retrouvez, vous, plutôt, Isabelle, et plutôt heureusement dans les propos de Jean Viard ?
Ah, complètement, oui. Alors on va éviter de rester enfermé dans ces petites idées, ces petites valeurs et tout ce qu'on a appris depuis l'enfance un petit peu.
Merci Isabelle pour ce témoignage. Jean Viard, comment vous le recevez-vous ?
Mais vous savez, moi je suis un groupe de jeunes qui m'intéresse beaucoup, qui a souvent pas fait d'excellentes études, et je les ai vus petit à petit se mettre à avoir un système. Ils travaillent 6 mois au SMIC dans des petits boulots, et après ils allaient 6 mois au Mexique, 6 mois en Amérique latine, parce qu'avec les 400 euros du SMIC, du chômage, ben, quand vous êtes au Brésil, les 400 euros, vous êtes riche. Et c'était surprenant de les voir, j'allais dire, grandir, quoi, y compris parce qu'ils ont appris l'espagnol, mais aussi parce qu'effectivement, d'un coup, ben oui, ils avaient fait de mauvaises études. Mais ils avaient... Donc, le problème, c'est que nous, on dit, tu fais de bonnes études, tu iras à Erasmus. Moi, je dis, mais tu rates tes études, voyage. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas simplement le cadeau qu'on fait aux élites. Il faut se donner... Chacun doit avoir sa chance. Et puis, je vais vous dire, vous savez, dans les milieux les plus populaires, dans les quartiers les plus en difficulté, la vie sentimentale, elle n'est pas toujours très riche. Parce qu'on a peu d'opportunités, les maisons sont surpeuplées, il y a un contrôle social terrible. Donc, aidons les jeunes à sortir de leur quartier pour, effectivement, aussi construire des vies, construire des projets, des désirs.
Pierre-Henri est au standard. Bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonjour, merci France Inter pour vos émissions. Voilà, je voulais poser une question à Monsieur Jean Viard. Tout à l'heure, vous citiez des chiffres, 80% des Français sont heureux dans leur travail, dans leur vie de famille, chez eux. Déjà, dans leur travail, il faut déjà avoir un travail, je me permets de vous le dire. C'est pas tout le monde. Et pour autant, ces chiffres sont très intéressants, étonnants, du moins, et je voulais que... Enfin, j'aurais été intéressé à ce que vous puissiez citer vos sources, s'il vous plaît.
Merci Pierre-Henri. Jean Viard vous répond.
Bon, vous trouvez ça régulièrement dans les sondages qu'on fait tous les ans, vous voyez ça dans les chiffres de l'INSEE. Je veux dire, il faut faire attention qu'on soit sensible aux chômeurs, aux gens en difficulté, aux personnes âgées, etc., et qu'on les mette au cœur du débat social, c'est considérablement un progrès. C'est-à-dire qu'on est attentif aux plus fragiles. Mais n'en faisons pas la norme collective. Je veux dire, effectivement, la plupart des gens
donc
continuent à
avoir un travail.
Donc vous
maintenez votre chiffre de 80% des Français sont heureux.
Incontestablement. D'ailleurs, les Allemands, c'est un peu plus que nous. Donc il y a un lien entre mode d'organisation, etc. Mais bien entendu que je les maintiens.
Allez, on est au standard maintenant avec Solène. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour à tous. En fait, j'appelais parce que j'étais en train d'écouter l'émission et voilà, j'ai entendu les propos de Jean Viard sur l'agriculture, les agriculteurs, donc le côté conservateur, catholique, tout ça. Donc, bon, je trouvais que c'était, disons, une vision un petit peu urbaine de l'agriculture, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'installent hors cadre familial et le renouvellement vient en partie de ces personnes-là. Et le deuxième point,
Vous êtes agricultrice vous-même, Solène?
Non, je suis pas agricultrice. Moi, je suis conseillère agricole, mais je suis très en contact avec les agriculteurs, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie personnelle.
Excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous aviez un deuxième point.
Non, mais c'était ça le deuxième point, mais je pense que c'est un petit peu hors sujet, c'est le fait que je pense qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre la vie urbaine et la vie agricole. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas d'où viennent leurs produits, et quand on parle aux enfants, même de certains légumes, qui ne savent pas les reconnaître, même quand ils ont 7, 8, 9, 10 ans. Mmh. Donc voilà, je pense que... il y a une reconnexion à faire entre le monde agricole et le monde urbain, qui est assez urgente.
Merci Solène. Jean Viard?
Non, mais je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous savez, moi j'habite à la campagne depuis toujours, je suis pas un urbain, j'ai eu une exploitation agricole, donc c'est pas des mondes que je connais assez bien. Mais on peut dire une chose, il y a à peu près 20% des fermes qui sont converties au bio, il y a d'autres secteurs de fermes, donc il y a une transformation, il y a une entrée, même si effectivement il y a encore des problèmes, il faut avoir passé les diplômes, etc. Mais il y a des arrivants dans le monde agricole, moins qu'en Italie par exemple. Donc la régénération du modèle agricole, je suis d'accord, elle va se faire pas avec des héritiers, avec des entrants, mais excusez-moi de vous le dire, avec beaucoup d'investissements publics, parce que transformer des fermes, ça coûte très cher. Et alors, soit on accepte que les prix augmentent un peu et qu'on gagne, le marché finalement finance, soit effectivement, c'est l'Europe et la France qui devra le faire.
Mylène est au standard depuis Montpellier. Bonjour Mylène.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Je voulais poser la question à monsieur Jean Viard, pardon. Toute simple, que pense-t-il de la collapsologie, en fait, cette théorie de l'effondrement et de l'exode urbain?
Merci pour cette question, Jean Viard.
Vous savez, il y a 12 000 personnes qui quittent Paris. Enfin, pas 12 000 personnes. Paris perd 12 000 habitants par an. Il y en a beaucoup plus qui partent, mais il y en a qui arrivent. Il est clair qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que la majorité des Français habitent dans des maisons avec jardin, souvent autour des villes. Nous ne nous trompons pas de modèle. Mais la question, c'est que les grandes métropoles sont le cœur de la richesse. C'est-à-dire que nos grandes métropoles, les 8 grandes métropoles françaises, produisent 61% du PIB. Donc, il faut comprendre que le monde de demain, c'est un monde horizontal, où on aura un pied à Paris, un pied en province, les entreprises le font. Regardez, il y a une étude qui a été faite par le président Morin sur la Normandie qui est passionnante. On se rend compte que les gens de Caen et les gens de Rouen, par milliers, viennent à Paris un jour par semaine. Et effectivement, faire un certain nombre d'affaires, ils travaillent chez eux. Donc ne considérons pas que nous habitons notre compteur EDF, considérons que nous sommes de plus en plus...
Mais est-ce que le monde va s'effondrer? Est-ce que ça vous inquiète? C'était ça la question de notre auditrice.
Mais le monde ne va pas s'effondrer, mais si la guerre écologique est mal menée, les conflits entre les hommes vont augmenter avec le réchauffement climatique et avec le fait qu'il y aura des zones inhabitables.
Une question avant de retourner au standard. Le président de la République a décidé hier que le méga complexe Europa City, qui devait regrouper commerce et loisirs, serait abandonné dans le triangle de Gonesse. Ça ne va pas se faire. Quelle est votre réaction, vous, Jean Viard, qui avez travaillé comme consultant pour ce projet et vous qui y étiez favorable?
Oui, tout à fait. Alors moi,
vous y étiez favorable, hein?
J'y m'intéressais. C'est-à-dire l'idée, si vous voulez. Oui, oui. C'est-à-dire l'idée, c'est comment, si vous voulez, les grandes surfaces, disons ce qu'on appelle la vente en boîte, c'est terminé. Ça continue à fonctionner. Le groupe Auchan en ouvre un par semaine dans le monde, en Asie, en Chine, mais ils savent que c'est terminé. Et ils ont dit, on met 3 milliards pour fabriquer un laboratoire. C'était ça l'idée de base. D'ailleurs, Vianney Muniez m'a dit plusieurs fois, mais vous savez, ça se fera peut-être jamais. Mais au fond, c'est pas grave, parce qu'on aura tellement appris pour modifier nos boîtes sur toute la planète que ça viendra. La question, elle est là. La deuxième question, si vous voulez, c'est qu'effectivement, quel était ce projet? Moi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était les deux palais des congrès et les 2400 chambres d'hôtel. C'est-à-dire de dire, on fait à côté de Roissy, un des 4 hubs mondiaux du cerveau. Parce que c'était ça le concept central qu'on met jamais en avant. Et autour, il y avait du commerce, etc. Bon, ça, on peut en discuter.
Autre temps, autre mœurs, oui, mais ça, monde savez, ancien.
Deux choses.
Dit le président de la République, oui. Est-ce que vous souscrivez à cette critique?
Honnêtement, j'aurais pas dit les choses de cette manière-là, d'autant plus que ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que j'avais dit à Vianney Muniez, installez-vous de l'autre côté de l'autoroute. Excusez-moi, il y avait les terres de Citroën à réutiliser, c'est la même surface et c'était du bâtiment déjà pris à l'agriculture. Bon, il m'a dit non, on va pas de l'autre côté. Il y aurait pas eu de débat, parce qu'il n'aurait pas pris des terres agricoles. Après, vous savez, il faut pas avoir peur des grands projets. En France, on aime les petits bisous, les petites maisons, les petites entreprises. Moi, j'ai une petite entreprise d'édition, j'ai publié 3000 titres, j'ai publié un prix Nobel. C'est une petite entreprise d'édition. Non, c'est une entreprise. On aime tout ce qui est petit, on a horreur de tout ce qui est gros. Il faut aussi faire des grands projets, enfin, des grandes inventions
grande
et des grands
talents. Ça peut être une grande catastrophe, un grand projet.
Mais un grand. Mais non, mais c'est pour ça. Après, effectivement, le débat social fait que, mais en même temps, dans le triangle de Gonesse, dans ces zones périphériques, il faut aussi donner des moyens économiques et des moyens de développement. Mmh. Et donc, la question se pose comme ça. Est-ce que ce projet était adapté? Moi, je suis pas dans le commerce, mais je pensais que l'idée de faire dans le commerce des lieux de la culture, où il y aurait eu des artistes, il y aurait eu un cirque, il y aurait eu un palais des congrès, deux palais des congrès, c'était une logique intéressante de questionnement.
Vos propos sur le voyage qui forme la jeunesse choquent nos auditeurs, que ce soit sur l'application mobile ou au standard. Comment un jeune peut-il voyager quand il n'a pas fait de grandes études et qu'il gagne le SMIC, vous demande Sidi du Nord.
Mais par exemple, quand il, pendant 6 mois, il est au chômage et qu'il utilise son chômage pour dans un pays où la vie coûte pas cher.
Alors il y a d'autres personnes qui disent que le chômage ne doit pas servir à payer les voyages.
Moi je considère ça comme de la formation, mais si vous voulez, c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin d'un statut de la jeunesse, parce qu'actuellement ils utilisent, etc. D'abord la plupart ne le font pas, mais je veux dire c'est un modèle que j'ai observé, que je trouve intéressant. Il faut se dire, ce sont des objectifs. Comment on pense à un statut de la jeunesse? Comment on pense à un revenu? Comment on arrête à ce qu'il soit sur les impôts de leurs parents, qu'il y ait des parts fiscales, que cet argent le récupère, etc. Moi, je dis, par exemple, dans ce bouquin, moi, je suis pour qu'un jeune qui a un projet de voyage de 6 mois sur la planète, il ait une bourse de 5000 euros. C'est-à-dire qu'il faut aider les gens sur projet. Et ça, on l'avait fait avec Edmond Maire. Edmond Maire avait monté une fondation qui s'appelait Vacances Ouvertes, où comme ça, on faisait partir des jeunes sur projet. Et après, on leur donnait un minimum de moyens pour voyager. Il faut aider à l'autonomie des jeunes, et pas que des jeunes qui ont fait Bac plus 12.
Allez, deux conseils de lecture. Un nouvel âge jeune, point d'interrogation. Devenir adulte en société mobile, le titre de votre dernier tout petit livre aux éditions de l'Aube. Et puis, le numéro de l'hebdomadaire Le 1 consacré au monde paysan. Qui est encore en kiosque si je ne...
Oui,
voilà,
c'est ça.
Exactement, si je ne m'abuse. Merci Jean Viard.